combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'une conscience coupable finisse par vraiment briser l'esprit de quelqu'un?
Ouais, c'est une sacrée question en fait.
Et pour la famille dont on va parler, ça a pris très exactement 22 ans. 22 ans, une famine aux proportions vraiment apocalyptiques et une opération d'infiltration psychologique d'une brutalité absolue.
Tout à fait. Et orchestré par l'homme même qu'ils avaient essayé de tuer des décennies plus tôt.
C'est fou. Donc, ok, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse détaillée des chapitres 42 à 45 de la Genèse. On se base sur la session 23 des excellents travaux du docteur Kenneth Matthews.
C'est un texte tellement riche.
Ouais, c'est clair. Et comme les grandes lignes de cette histoire sont déjà bien connues de ceux qui s'y intéressent, notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un simple résumé de l'intrigue, pas du tout.
Non, ça n'aurait pas grand intérêt.
Exactement. Le but, c'est de dépasser le vernis de l'Antiquité pour vraiment décrypter le drame psychologique. C'est presque clinique, tu vois. C'est comment est-ce qu'on peut tester et prouver qu'une personne qui a commis une trahison impardonnable a véritablement profondément changé?
C'est la question centrale. Et pour y répondre, il faut vraiment poser un cadre d'analyse beaucoup plus large dès le départ. On ne parle pas juste d'un fait divers familial antique, là.
Non, c'est bien plus grand que ça.
Exactement. Cette séquence s'inscrit dans un cycle historique et spirituel qui est massif si on regarde bien. La famille de Jacob descend en Égypte pour fuir la mort. Et ça fait complètement écho à ce qu'avait fait son grand-père, Abraham.
Ah oui, qui avait utilisé exactement la même stratégie de survie.
Voilà. Et évidemment, ça préfigure aussi le grand exode de toute la nation d'Israël plus tard. Donc c'est une architecture narrative qui montre que le chaos apparent, bah, c'est jamais le dernier mot de l'histoire.
Même quand la famille en question est complètement dysfonctionnelle.
Surtout là. La providence supervise la survie, même quand le matériau humain de base, et franchement cette fratrie est complètement fracturée, même quand ça semble corrompu de l'intérieur.
Fracturée, c'est vraiment un euphémisme. Oublions deux secondes le beau décorum des retrouvailles et plongeons direct dans la mécanique de cette confrontation. Donc, la famine balaye tout. Les frères arrivent en Égypte pour acheter du grain.
Et c'est là que le piège se referme.
Ouais, Joseph est devenu le souverain absolu de la région. Il les reconnaît tout de suite. Les frères se prosternent face contre terre, ce qui, au passage, accomplit littéralement ses rêves d'adolescent.
Les fameux rêves avec les gerbes et les étoiles, oui.
Exactement, ceux qui avaient déclenché leur haine à l'époque. Mais bon, au lieu de faire de grandes embrassades, Joseph cache son identité et il déclenche ce que j'appelle une véritable sting operation, une opération d'infiltration policière.
C'est une bonne analogie, ouais. Il les accuse violemment d'espionnage, il jette Siméon en prison comme otage et exige qu'il ramène le petit dernier, Benjamin.
Mais le coup de grâce, franchement, c'est l'argent. Il ordonne en secret qu'on remette leur argent dans leur sac de grains. Et là, je me fais l'avocate du diable. Mais on pourrait très bien se dire que c'est de la cruauté pure, non?
Je vois ce que tu veux dire.
Bah, c'est de la torture psychologique. C'est orchestré par un gars qui a enfin le pouvoir d'écraser ceux qui l'ont fait souffrir. En quoi est-ce qu'il vaut mieux qu'eux, à ce stade? C'est pas juste une vengeance sadique, en fait.
C'est une objection légitime et beaucoup de gens se posent cette question en lisant le texte. La méthode est d'une dureté incroyable, c'est vrai.
Totalement.
Mais il y a une différence fondamentale entre la vengeance punitive et ce qu'on pourrait appeler un test de diagnostic restauratif.
Un test de diagnostic, ok. Comment ça?
Exécuté. Son but est différent. Il a face à lui des hommes qui ont construit un mur de déni massif.
Pendant 22 ans quand même.
Voilà. Et pour percer une carapace psychologique aussi épaisse, il faut un choc qui soit proportionnel. En planquant cet argent dans leur sac, ce n'est pas du harcèlement gratuit. C'est vraiment un déclencheur calculé pour créer une crise insoluble.
Et franchement, le déclencheur marche avec une précision qui fait froid dans le dos. Quand ils découvrent l'argent sur le chemin du retour, le texte dit que leur cœur chancelle. C'est la panique totale.
C'est le poids de la culpabilité qui remonte à la surface.
Exactement, on le voit en temps réel. Le verset 21 du chapitre 42 est super frappant. Sans aucune preuve logique, ils relient tout de suite ce malheur égyptien à leur crime passé.
Ils disent qu'ils sont punis à cause de leurs frères.
Ouais, ils disent « Certainement, nous sommes punis à cause de notre frère, dont nous avons vu l'angoisse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. » C'est fascinant de voir qu'un trauma non résolu crée cette paranoïa où le moindre truc de travers est perçu comme un châtiment de Dieu.
C'est exactement ça. Le masque tombe enfin. La pression de ce qui se passe en Égypte fissure ce déni. Et le secret toxique éclate au grand jour. Il porte enfin cette honte.
Mais cette pression, elle va pas juste s'arrêter à leur conscience personnelle. Une fois rentrés en Canaan, ça provoque une énorme crise de leadership devant Jacob.
Ce qui est fascinant ici,
C'est de voir comment Jacob, qui a causé tellement de chagrin à son propre père Isaac dans sa jeunesse, subit maintenant le chagrin causé par ses propres fils. La boucle se boucle.
Ouais, le karma, quoi. Et cette crise de leadership, elle montre deux visions totalement opposées de la responsabilité. Les vivres s'épuisent. Il faut retourner en Égypte, mais sans Benjamin, c'est mort.
Et Jacob refuse catégoriquement. Il est désespéré, il dit un truc du genre « Vous me privez de mes enfants !»
Et là, Ruben, le frère aîné, tente un truc. Il fait une proposition au père, et honnêtement, en lisant les sources, je trouvais ça mais complètement absurde. Il dit « Fais mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. »
Ah oui, l'offre de Ruben.
Mais c'est une mathématique macabre. C'est révoltant. Il propose d'échanger la vie de ses propres enfants, les petits-fils de Jacob, en garantie. Comment c'est possible de penser comme ça?
Bah, ça nous semble être de la folie pure avec nos yeux modernes, c'est sûr. Mais il faut se remettre dans le logiciel de la pensée patriarcale du Proche-Orient ancien.
C'était pas du tout individualiste, c'est ça?
Pas du tout. Les enfants, et surtout les fils, c'était vraiment des extensions directes de la propriété, de l'honneur et de la vie du patriarche lui-même. Donc Ruben, dans son esprit, il ne propose pas un double meurtre gratuit.
Il propose une transaction.
Exactement. Il dit à son père « Je mets en gage ma propre lignée, mon propre avenir, pour garantir le tien. » C'est une transaction juridique née du désespoir.
Transaction ou pas, moi je trouve que c'est une énorme dérobade face à la vraie responsabilité. Échanger deux vies contre une. Et c'est même pas la sine. Mais heureusement, Judas prend le relais.
Et le contraste est saisissant.
Ah oui, c'est une vraie évolution morale. Judas balaie complètement ce calcul morbide. Il prend une responsabilité personnelle absolue. Il dit à Jacob « Je m'en porte garant. Si je le ramène pas, je serai coupable envers toi à tout jamais. »
Ce changement chez Judas, c'est probablement l'une des évolutions les plus importantes de tout ce récit. Faut pas oublier que c'est lui, des années avant, qui a eu l'idée cynique de vendre Joseph pour se faire de l'argent.
Plutôt que de le tuer, ouais, super le frère.
Voilà. Mais entre-temps, Judas a été brisé par la vie. Au chapitre 38, on voit qu'il a vécu des tragédies, des deuils terribles avec ses propres fils et des échecs moraux profonds avec Tamar. Il a complètement changé.
Il n'est plus du tout le jeune gars arrogant d'avant.
Non, plus du tout. Et en offrant sa propre vie en garantie, il redéfinit le concept même de responsabilité dans cette famille. Et face à ça, Jacob finit par céder.
Et la façon dont il cède est aussi super intéressante. Il envoie des cadeaux somptueux avec eux, le meilleur du pays. Ça m'a fait penser, c'est exactement sa propre tactique de quand il était jeune.
Quand il voulait apaiser son frère Ésaü, oui, tout à fait.
C'est ça. Mais la grosse différence cette fois, c'est qu'il prie El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour qu'il leur accorde sa miséricorde. Il lâche enfin prise.
Ce qui est énorme pour un gars qui a passé sa vie à essayer de tout manipuler. Donc, armé de Benjamin, de la garantie de Judas et des cadeaux, il retourne en Égypte. Et là, pas d'arrestation, mais une invitation à un banquet chez Joseph.
Un banquet qui se transforme très vite en un test de laboratoire hyper pointu. Les sources décrivent une ségrégation physique très claire. Les Égyptiens d'un côté de la pièce et les Hébreux de l'autre.
Oui, ils ne mangeaient pas ensemble.
C'est fou. Pourquoi une séparation si brutale pendant un repas officiel?
C'est une question d'anthropologie culturelle. La société égyptienne détestait les bergers. Pour eux, c'était une abomination, en partie à cause de croyances religieuses et de l'histoire avec les invasions des Hyksos.
Donc, partager un repas, c'était une souillure pour eux.
Exactement. Mais au-delà de ça, cette ségrégation culturelle, elle est vitale pour la suite de l'histoire. C'est ce qui annonce leur futur isolement dans la région de Goshen.
Ah, pour éviter l'assimilation.
Oui. C'est ça qui va empêcher le peuple de se fondre dans la culture égyptienne et de disparaître, contrairement à ce qui aurait pu se passer, comme on l'a vu avec Judas qui s'était marié à une cananéenne plus tôt. L'isolement préserve leur identité religieuse.
D'accord, l'ironie est superbe. La discrimination égyptienne devient le bouclier qui protège l'identité hébreu. Mais bon, revenons à la tension dans la salle du banquet. Joseph les place par ordre d'âge exact, du plus vieux au plus jeune.
Ce qui les terrifie, parce que c'est impossible à deviner.
Clairement. Et ensuite, le vrai coup de pression. Benjamin reçoit une portion de nourriture 5 fois plus grosse que les autres. En ingénierie, on appelle ça un stress test, un test de résistance.
C'est une excellente comparaison.
Bah oui, quand on répare un pont, on fait passer les camions les plus lourds exactement sur la faille pour voir si ça tient. La faille structurelle de cette famille, c'était leur jalousie maladive du fils favori.
Et Joseph appuie exactement là-dessus.
Ouais, il recrée les conditions du crime d'origine. Benjamin est le nouveau chouchou, il a tous les privilèges. Est-ce que la structure va s'effondrer comme il y a 20 ans?
C'est l'ultime épreuve. Et pour que les résultats soient clairs, il faut pousser le test au bout du bout. Le lendemain, les taux se referment. Joseph fait cacher sa propre coupe en argent dans le sac de Benjamin.
Et pas n'importe quelle coupe. L'intendant les rattrape et les accuse de vol. Et les sources précisent que c'est une coupe de divination. C'est un détail qui m'a scotché. Qu'est-ce qu'une coupe magique vient faire là?
C'est redoutable psychologiquement. En Égypte, la noblesse pratiquait ce qu'on appelle la lécanomancie.
La lécanomancie.
Oui, on versait de l'eau ou de l'huile dans une coupe et on lisait l'avenir où on trouvait des choses cachées dans les ondulations de liquide. Bon, Joseph n'y croit pas, c'est évident. Mais il sait l'effet que ça a sur eux.
Ah ouais, ça rajoute une couche de terreur surnaturelle.
Le message, c'est « Ce seigneur égyptien, c'est tout. Ses yeux percent les ténèbres. Pour des gars qui cachent un meurtre déguisé depuis 20 ans, c'est terrifiant. Ils pensent que l'univers entier se retourne contre eux par magie. »
Et la fouille commence. Du plus vieux au plus jeune. La tension est à son comble. La coupe est trouvée chez Benjamin. Évidemment. Et là, les frères déchirent leurs vêtements. Le signe du désespoir plus total. Le point de rupture maximal du test de résistance.
C'est le moment de vérité.
20 ans plus tôt, ils auraient abandonné Benjamin sans ciller. Ils seraient rentrés avec un nouveau mensonge pour Jacob. C'était la porte de sortie facile. Mais là, surprise, la fratrie prouve sa transformation. De retour au palais, c'est Judas qui prend la parole.
Et quelle prise de parole, hein ?
Incroyable, il ne cherche pas d'excuses. Il confesse la culpabilité collective en disant « Dieu a mis à découvert l'iniquité de tes serviteurs ». Et surtout, il s'offre lui-même comme esclave à la place de Benjamin pour sauver la vie de son vieux père.
La boucle est bouclée. Le frère qui avait vendu un fils de Rachel pour de l'argent s'offre en esclavage pour sauver le dernier fils de Rachel. L'empathie a gagné sur la jalousie.
C'est ça. Le sacrifice de Judas prouve que la maladie est guérie. Et c'est ce qui fait craquer Joseph. Il fait sortir les Égyptiens et il pleure tellement fort que toute la maison de Pharaon l'entend de l'extérieur.
C'est un moment d'une émotion brute, incroyable.
Et là, il lâche la bombe. « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» La terreur des frères a dû être absolue. Mais au lieu de les punir, Joseph sort une explication théologique stupéfiante au chapitre 45.
Oui, il dit « C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. »
Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il dira plus tard « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Comment on peut concilier ça, la totale responsabilité des frères pour leurs actes horribles, d'un côté, et de l'autre, Dieu qui orchestre tout depuis le début?
Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, c'est ce que les philosophes et théologiens appellent le compatibilisme. Le génie du texte, c'est qu'il n'efface ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Les choix humains, la cruauté, les années de souffrance de Jacob, tout ça est 100% réel. Les frères sont coupables. Mais les souffrances ne sont pas arbitraires. Dieu tisse tous ces événements tragiques dans un vêtement beaucoup plus vaste.
Pour accomplir la promesse de la bénédiction.
Exactement. La promesse menacée depuis l'Éden. Le docteur Matthews donne un exemple fascinant avec l'homme anonyme du chapitre 37.
Ah oui, l'homme à Sichem.
Oui, quand Joseph cherchait ses frères des années avant, il s'est perdu. Et là, un inconnu total le croise et l'oriente vers Dothan. C'est l'instrument de la providence cachée de Dieu.
L'effet papillon.
Sans cet anonyme, pas de rencontre. Sans rencontre, pas de puits, pas d'Égypte, pas de salut face à la famine. C'est Dieu qui s'assure que le plan se réalise à travers les détails les plus insignifiants.
C'est vertigineux. Et toute cette révélation, ça amène une vraie résurrection émotionnelle. Il y a un détail qui est tellement beau à la fin. Joseph les embrasse en pleurant et ensuite le texte dit « Et ses frères s'entretinrent avec lui ». Ils se mettent à parler.
Ce qui contraste violemment avec le début de l'histoire, où ils le détestaient tellement qu'ils ne pouvaient même pas lui adresser un mot paisible.
Exactement. Le silence destructeur de la haine laisse place aux conversations qui guérissent. La famine est finie, physiquement, mais surtout moralement et relationnellement.
Et le pharaon lui-même est touché, il leur offre le meilleur du pays d'Égypte. Et Joseph, avec une pointe d'humour, mais très sérieux, leur glisse avant qu'ils partent, « Ne vous querellez pas en chemin. »
Il les connaît bien, ouais. Et quand il rentre annoncer à Jacob que Joseph est vivant, Jacob ne les croit pas au début. Normal. mais en voyant les chariots égyptiens, son esprit revit.
C'est une vraie résurrection métaphorique pour lui. Le deuil est enfin terminé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Au-delà du récit antique, ça nous montre que nos pires échecs, nos traumatismes les plus lourds, peuvent être transformés et intégrés dans une histoire qui a du sens.
À condition d'avoir le courage d'affronter la vérité en face, comme Judas l'a fait.
Absolument. Sans ce courage d'affronter sa propre culpabilité, pas de restauration possible. Et je voudrais laisser une dernière réflexion à ceux qui nous écoutent. On voit ici qu'une souffrance énorme, sur des décennies, était nécessaire, historiquement parlant, pour sauver des nations entières.
C'est un point de vue difficile à avaler aujourd'hui.
Justement, dans quelle mesure notre obsession moderne, très individualiste, de vouloir à tout prix éviter le moindre inconfort et fuir la souffrance, ne nous empêche-t-elle pas de voir le sens caché derrière nos propres épreuves ?
C'est une question très profonde.
C'est ça l'idée. Si on refuse tout test, toute douleur, on risque de passer à côté de ce grand dessein. Quelque chose à méditer en tout cas. C'était un plaisir de décortiquer tout ça.
Un vrai plaisir partagé.